Regarde, l'obscurité couvre la terre et les ténèbres recouvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur et brille sa gloire. Les nations marcheront vers sa lumière et les rois vers la clarté de son aurore. Notre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Bonjour à tous, bienvenue, soyez les bienvenus dans cette fête de l'Épiphanie, premier culte de l'année. Bonne année 2021. Sentez-vous accueillis, toujours dans le respect des règles de distanciation. Avec Marie-Vonne, nous animerons le culte accompagné de Andrea, à l'orgue, que je remercie d'être là, parce que c'est quand même mieux un culte en musique. Et Frédéric et Christophe à l'accueil, et Nicolas aussi. Nous chanterons les cantiques affichés au tableau, et certains refrains que vous trouverez, vous en avez l'habitude, dans les inserts, le feuillet au début du recueil. Dieu nous ouvre le chemin et conduit nos pas dans sa lumière. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur.
Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia, alléluia, vivant notre Dieu, Dieu vivant. Alléluia, alléluia, louange par notre chant.
Dieu. Seigneur, au creux de mes mains, dépose ta paix. Au fond de mes yeux, dépose ta lumière. Au fond de mon cœur, dépose l'amour. Au creux de ma vie, dépose l'espérance. Et que sans cesse, à toi, mon Dieu, je dise merci. Dieu d'amour, nous te louons et nous chantons le psaume 72. Que vous trouverez à la page 86, nous chanterons les 5 strophes. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, unissons-nous de la prière sur un texte de la communauté de Colmont. Quand je suis à bout de souffle et que le feu de ma vitalité s'éteint, quand je me sens pauvre et vide, sans rien à partager, quand je désespère de l'amour et que mes relations sont habitées d'amertume, pardonne-moi et pose sur moi ton regard de tendresse. Tu me vois, Seigneur, prompt à te demander miracle pour soulager l'homme sans qu'il ne me coûte rien. Tu me vois, Seigneur, prompt à convoiter tout pouvoir, tout savoir et tout bien. Tu me vois, Seigneur, prompt à me rassasier de pain et à me boucher les oreilles. Fais-moi marcher à ta suite. Viens dénouer doucement ce qui en moi est noué. Viens faire éclater en mon cœur le germe de ton amour. Ensemence mes journées de ta pensée. Que mes paroles, mes pensées et mes actes en témoignent. Que la joie, la simplicité et le pardon en soient les signes posés sur ma vie. Nous allons chanter le spontané de repentance.
Accueillir cette parole qui nous pardonne tel que nous sommes, je vous invite à vous lever. Écoutons une prière attribuée à Thomas More. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps. Aide-moi à la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour, pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. Le prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11, écrit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Le salut ne vient pas de notre propre mérite, il est un don de Dieu. Nous annonçons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance en restant debout, en chantant le spontané du pardon.
Tu consoles, tu pardonnes, ta bonté sur tout, tout rayonne. Ta pensée unie d'amour est fidèle, éternelle.
C'est avec ces mots de Martin Luther King que nous poursuivons notre culte. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui, plein de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé elle nous est fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est pas la mesure des choses et l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui méchamment nous utilisent ou nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée par ta parole. Elle nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble, à vivre ensemble, jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, se réjouiront en une seule humanité commune dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Et nous allons chanter le cantique 52-18 que vous trouverez à la page 859. Et nous chanterons les trois strophes et Andrea le joue en entier pour la première fois.
Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre, et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur nos âmes.
Avant de lire les Écritures, écoutons Éphrem de Nisibé. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Rends grâce pour ce que tu as reçu. Elle ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu persévères. N'aide donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut pas être pris en une seule fois. Et ne renonce pas, par négligence, à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Et c'est Christophe qui va partager les 4 textes proposés pour aujourd'hui.
Je prends cette Bible parce que c'est écrit plus gros. Alors, tout d'abord, dans le au psaume 71, 72, on ne sait pas trop, des écrits de Salomon, les versets 1, 2, 7, 8, 10 à 13. Des écrits de Salomon. Ô Dieu, accorde au roi de prononcer les mêmes jugements que toi. Donne à ce fils de roi ton sens de la justice. Qu'il soit loyal et fidèle au droit en jugeant les pauvres gens, ton peuple. Sous son règne, que le bon droit s'épanouisse, qu'il y ait abondance de biens tant que la lune existera. Qu'il soit le maître d'une mer à l'autre et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Les rois de Tarsis et des îles lointaines lui enverront des cadeaux. Les rois de Saba et de Séba lui livreront leurs contributions. Tous les rois s'inclineront devant lui. Toutes les nations lui seront soumises. Il délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider. Il aura pitié du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Alors, au livre d'Ésaïe ou d'Isaïe, là encore il y a différentes versions, au chapitre 60, les versets 1 à 6. « Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur, t'éclaire comme le soleil qui se lève. » Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras, en les apercevant. Tu rayonnes de bonheur, tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi, les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux, ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 2, 3a, 5 et 6. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Et donc, dans Matthieu 2 ou 3, je n'ai pas noté, c'est 2, hein. 2, chapitre 2, les versets 1 à 12. J'aurais dû m'en douter puisque c'est l'arrivée des rois mages. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée ». Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importance des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Et nous chantons, donc vous levez pour chanter, en principe c'est plus pratique, le spontané dont je n'ai pas noté le mot.
Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de l'Épiphanie. Nous débuterons donc cette prédication par un premier éclairage étymologique. Même si je pense qu'il est peu nécessaire pour vous tous, mais voilà. Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre le Messie, venu et incarné, ou théophanie pour nos frères orthodoxes, manifestation de Dieu. Dieu est incarné dans le monde. L'épiphanie, c'est la révélation de Dieu à toutes les nations, tous les peuples. C'est la marque de la portée universelle de la bonne nouvelle, de son universalité. Après les bergers, la nuit de Noël, ce sont les mages qui sont appelés à suivre ce signe dans la nuit. Mais qui sont ces mages? Ils sont représentés riches, rois, en provenance de l'Orient, porteur de cadeaux précieux. Ainsi, la naissance de Jésus, après avoir été annoncée aux plus pauvres, les bergers, aurait été annoncée aux plus riches. C'est déjà un message d'universalité sociologique. Certes, Mais à y regarder de plus près, ces mages n'étaient pas forcément le meilleur casting, en tout cas le casting attendu. En effet, que sait-on d'eux ? Pas grand-chose en réalité. C'est la tradition qui a fini par dire qu'ils étaient trois, que c'étaient des rois, et qu'ils s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais le texte biblique est plus sobre. Ils viennent d'Orient, c'est vague. Viennent-ils de Babylone, de Perse ? Des mages, il en est question dans la Bible, et ils ne sont pas vraiment présentés sous un jour favorable. Ils interprètent les rêves, ils accomplissent des prodiges, ils sont un peu sorciers, un peu devins. Ils scrutent inlassablement les étoiles et les astres. Leur art est un mélange, fréquent dans l'Antiquité, d'astrologie et d'astronomie. Il s'agit d'établir une géographie du ciel, de représenter les constellations, de repérer les constellations, mais aussi de les lire comme autant d'annonces, de présages. Dans la croyance que les grands luminaires sont des êtres divins qui peuvent commander et influencer le destin des hommes. Qui parmi vous lit l'astrologie, son thème astral tous les jours ou... Non, personne ? Bravo. Ces mages, ils sont un peu scientifiques, un peu charlatans. Voilà donc le genre de personnage mis en scène aujourd'hui. Ils cherchaient à lire dans les étoiles la destinée de chacun. Ils espéraient ainsi percer les secrets de l'histoire. Les mages ont donc scruté les étoiles et y ont vu le signe de la naissance du roi d'Israël. Si l'évangile avait été écrit par un bon chrétien, il aurait sans doute trouvé mieux, plus politiquement correct, pour venir adorer le Messie. Mais Dieu est allé chercher des païens venus d'Orient, puisque les chefs religieux étaient incapables de voir ce qui se passait sous leur nez. Il y a d'autres cas dans la Bible où Dieu fait éclater les carcans et les a priori, en utilisant des hommes ou des femmes, là où on ne s'y attend pas. Ne nous hâtons donc pas de dire comme Dieu parle, comment Dieu parle, et à qui il parle ou ne parle pas. Laissons-nous surprendre. Dieu a trouvé les mages par les étoiles, et il est allé chercher des hommes curieux, en recherche, prêts à attendre le voyage, à entreprendre le voyage et pour aller adorer le roi des Juifs. Qu'importe finalement notre façon de trouver le salut de Dieu qu'incarne le Christ ? L'essentiel est d'avancer vers lui et de se laisser toucher, transformer par lui. Il y a une quantité de formes d'approche du Christ. Celui qui aime la philosophie et la théologie peut avancer vers le Christ ainsi, en remarquant que le Christ est la meilleure réponse aux questions fondamentales de l'existence. Le scientifique peut avancer vers le Christ en analysant les merveilles de la nature. Celui qui est artiste peut avancer vers le Christ par ce qui est beau. Celui qui est mystique peut avancer par le sentiment de l'amour de Dieu et la prière. Mais le but n'est pas la prière, ni la lecture de la Bible, ni la science, ni la théologie, ou la philosophie, ni la musique. Le but, c'est d'être transformé par le salut que Dieu nous donne en Christ. La religion n'est qu'un moyen, combinant de la réflexion, de la musique, de l'émotion, des gestes. Comme quand les mages cherchent le Christ en combinant leurs propres moyens, un peu bizarres, avec le dialogue avec des théologiens et même avec le pouvoir politique. Tout discutable était-il. Un point clé est peut-être là, de combiner les approches. Ça rattrape bien des choses. C'est ça qui permet aux mages d'aboutir. Ils ne sont pas restés des intégristes de leur étoile. Ils ont confronté leur approche avec d'autres. La diversité est une chance. La diversité de lumière aussi est une chance. Les mages viennent d'Orient. Or, l'Orient est le lieu où le soleil se lève chaque matin sur la terre. Les mages ont vu des limites de la lumière de la vie terrestre et ils ont cherché, ils ont suivi une étoile, un signe de la lumière divine. Ils trouveront en Christ cette lumière. Une lumière spirituelle qui n'annule pas la lumière terrestre, mais qui marque un cheminement. La vie sur terre est bonne, ou plutôt, elle est faite pour être bonne. C'est pourquoi les mages retourneront ensuite en Orient. Ils retourneront à leurs occupations, leur famille, leur vie, mais transformés. Ils seront alors plus complets, plus forts dans la lumière terrestre et dans cette lumière divine. L'étoile évoque pour donc un des multiples moyens d'avancer vers le lieu où la parole de Dieu nous est donnée. L'étoile n'est qu'un moyen. Elle disparaît finalement. Elle s'efface quand les mages arrivent au but qu'est le Christ. Les mages connaissent alors une grande joie. Ils n'en auront plus besoin après. Ils n'auront pas non plus besoin de rester scotchés au Jésus de l'histoire, mais ayant trouvé auprès de lui le lien direct avec Dieu, ils pourront rentrer chez eux par un autre chemin transformé. La religion, c'est comme cette étoile, comme ces théologiens consultés par les mages. L'Église n'est pas le Christ. Elle est un appel et une aide pour avancer vers lui. La religion doit rester humble, s'effacer. Sinon, elle devient une superstition. Elle devient une autre astrologie. Un savoir qui se prend pour la vérité de Dieu. Quelle est cette vérité qu'ils reçoivent en Christ ? C'est une capacité d'être en relation avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. C'est ce qui fait qu'ayant rencontré le Christ, les mages n'ont pas besoin de rester là, en contemplation, mais qu'après ce temps, avec le Christ, ils retournent chez eux, transformés. Le Christ ne fait pas de nous des esclaves. Le Christ qu'il apporte, le salut qu'il apporte, est une dimension nouvelle dans notre ancienne vie. Cette transformation est offerte par grâce. Dieu nous offre la grâce, la vie par grâce. La bonne nouvelle est pour nous, les bergers, les mages, les gens en provenance d'Orient, d'Occident, lui, elle, toi, moi, nous. Et Dieu va à la rencontre de ceux qui le cherchent, où qu'ils soient, quel qu'il soit. Et je reprends le texte lu par Christophe dans la lettre aux Éphésiens. Voici le projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et ils bénéficient aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 32-37 à la page 394. Réjouis-toi, voici ton roi, et nous chanterons les quatre strophes. Restons debout. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi avec la confession de foi qui avait été élaborée par le Conseil presbytéral en 2012. Dieu est vivant. Nous sommes dans l'émerveillement de sa création. Avec Jésus-Christ, il nous donne la vie et son souffle nous met en marche. Dieu est vivant. Il connaît chacun de nous et nous accepte tels que nous sommes. Sa grâce nous libère et éclaire notre chemin. Dieu est vivant. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous croyons que notre savoir ne suffira jamais à expliquer le pourquoi de la vie. Dieu est vivant. Nous lui faisons confiance. En toi, Seigneur, je place mon espérance. Amen. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Que notre offrande soit l'expression enthousiaste de notre reconnaissance. Merci, Éternel, pour ces gestes de don que tu suscites en chacun de nous, chaque jour et à ton service. Amen. Donc, voici le temps des annonces. Donc, comme vous l'avez remarqué, Charlotte est en vacances. Elle sera de retour pour le culte de dimanche prochain. Il y a le conseil presbytéral le 7 janvier à 20h15 en visio. C'est une des annonces. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ?
Vas-y. Juste pour vous informer que nous avons pu payer la contribution jusqu'au bout, hein, qu'il n'y a pas eu de problème, et que nous allons commencer l'année avec 1000 euros en compte, donc c'est parfait. Merci à tous.
Et voilà, je tiens encore avec Francine à remercier évidemment Andrea, Frédéric, Christophe, Nicolas, et puis également vous aussi d'être présents pour ce premier culte de l'année. Prions les uns pour les autres.
Dieu Père de tous les hommes, tu as fait lever dans la nuit l'étoile qui nous conduit au Christ, et aujourd'hui, en cette assemblée, tu nous rassembles autour de lui. Même en ces temps où l'horizon s'obscurcit, l'étoile se lève sur le monde, et aucune puissance, jamais, ne pourra venir à bout de ce petit enfant. Son royaume est le seul qui tienne. Ainsi, un peuple de croyants est toujours en marche vers lui. Un peuple de toute race et de toute nation. Tous sont appelés à la même espérance, à la même joie. Qui pourra nous séparer de l'amour que tu nous manifestes en lui? Qui pourra nous séparer les uns des autres si nous l'aimons? Que son esprit soit avec nous. Et d'un même cœur et d'une même voix, nous te prions comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
Amen.
Après leur passage devant la crèche, les mages, comme les bergers, ont retrouvé leur vie et probablement leurs activités de berger et de mages. Comme les disciples redescendant de la montagne après la transfiguration du Christ ont repris leur vie de disciples, de même nous reprenons notre vie, mais avec quelque chose de plus, une présence, une sérénité, une espérance, une étoile qui continue de briller dans notre ciel. Cette épiphanie, cette manifestation divine dans notre humanité, c'est une mise en mouvement, c'est une sortie de l'obscurité, une sortie de nos limites, c'est le triomphe de la vie. Pour les mages, l'essentiel n'est pas l'étoile, mais la direction qu'elle indique, le but de la recherche, la rencontre avec l'enfant roi. Alors, suivons avec confiance le chemin de notre foi, de notre étoile intérieure, pour une rencontre avec Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de sa rencontre, que le Seigneur te donne la paix. Amen. Et nous chantons le dernier spontané.
Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Bon dimanche et bonne année à tous.